Histoire actualité comme tous les vendredis. Et en ce vendredi, une émission spéciale en direct des studios de la RTS à Genève que nous remercions de nous accueillir à l'occasion du festival Histoire Assis et Cité qui se tient ici même. Festival Histoire et Cité à Genève, organisé pour la quatrième fois par la Maison de l'Histoire autour du thème de l'eau avec Anaïs Quien qui a conçu le programme de ce matin. Nous allons donc vous parler du tsunami sur le lac Léman avec Stéphanie Girard-Clos, de civilisation supposée lacustre avec Marc-Antoine Kayser, directeur du Laténium à Neuchâtel. Et pour finir, nous discuterons de séries télévisées d'histoire avec l'historienne Talia Bréraud qui a monté avec d'autres historiennes et historiens de l'Université de Genève 3 saisons de cours publics autour des rapports entre histoire et fiction historique. Debussy, le jet d'eau d'après Baudelaire, évidemment, ni Baudelaire, j'imagine, ni Debussy, n'imaginez le grand jet d'eau que nous avons vu ce matin en arrivant ici dans les studios de la RTS et en passant le long du lac. C'est évidemment le jet d'eau de Genève qui, d'ailleurs, donnera lieu à plusieurs conférences ici même dans le cadre de ce festival Histoire et Cité. Bonjour à vous, Anaïs Quien.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et donc, il y aura de nombreuses conférences autour de ce thème de l'eau qui est central, donc, pour cette 4e édition du festival Histoire et Cité. Et parmi ces conférences, il y aura la vôtre, Stéphanie Girard-Clos, bonjour.
Bonjour.
C'est donc une conférence qui traitera évidemment de l'eau, du Léman aussi, et pas du jet d'eau, mais d'un tsunami, ou plutôt de plusieurs tsunamis qui se sont déroulés ici même. Alors vous n'êtes pas historienne, vous êtes géologue de formation, c'est cela ?
Oui, c'est ça.
Et vous vous intéressez à des phénomènes géologiques anciens qu'on en a pu retrouver justement autour de ce lac Léman et qui sont très importants pour une géologue comme vous parce que ça explique évidemment dans des contextes de changement climatique, ça peut être utile. Comment se passent des transformations géologiques et hydrauliques dans un cadre particulier? Et vous avez eu l'idée de travailler sur des tsunamis sur le lac Léman.
En fait, c'était un peu une découverte. Au début, je faisais mon métier, c'est-à-dire j'allais explorer les fonds du lac pour travailler sur les sédiments, puisque c'est ça ma spécialité. Je cherchais les anciens dépôts de crues au fond du Léman. Et puis, ben, finalement, on a trouvé autre chose.
Avec effroi. Parce que ça change quand même, cette découverte de... vous avez réussi à en dénombrer 6 tsunamis sur le lac Léman, change aussi la perspective, le regard, excusez-moi, le regard que l'on peut porter sur une vie autour de ce lac, sur cet environnement, qui paraît nettement plus dangereux que ce qu'on avait pensé jusque-là peut-être.
Oui, c'est un peu radical comme changement de perspective, surtout qu'effectivement on a une image assez paisible du lac, où il y a quelques tempêtes, mais on a de la peine en fait à se représenter ce que ça peut être. Et pour nous géologues, en soi, c'est pas vraiment une surprise totale de savoir qu'un tsunami peut avoir lieu sur un petit bassin, puisque en fait, dès qu'on a de l'eau, même dans un marais, en quelque sorte, on peut créer une très grande vague. Il suffit simplement de déplacer l'eau.
Alors vous avez dénombré, c'est ce que vient de dire Anaïs, 6 tsunamis. Le plus ancien que vous avez pu dénombrer, c'est nommé, il date de quelle époque?
Alors le premier qu'on a détecté, ça ne veut pas dire que c'est le premier dans l'absolu, il était en moins 1730 à peu près, avant Jésus-Christ, oui. Et effectivement, dans les sédiments, on en a retrouvé 5. Alors c'est évidemment pas les tsunamis qu'on a retrouvés, c'est des très gros dépôts qui ont des volumes importants. Et comme on sait qu'ils se sont déplacés au fond du lac en déplaçant l'eau...
Mais c'est ça, en fait, vous arrivez à détecter que ces sédiments ont été déposés de manière très brutale.
Exactement.
C'est ça qui est très intriguant aussi.
Oui, alors c'est là où on a justement l'expertise géologique, c'est que on lit les dépôts et on sait que dans la façon dont ils sont structurés, à la fois en regardant les sédiments, mais en fait en faisant de l'imagerie indirecte, aussi en géophysique, on arrive à déterminer que ce sont des glissements. Comme un glissement qu'on aurait en montagne, sauf que ce sont des glissements subaquatiques qui ont eu lieu sous l'eau. Et ces glissements subaquatiques, au moment où ils se mettent en marche, un peu comme le début d'une avalanche, ils font une sorte de souffle, sauf que là c'est pas un souffle d'air, c'est un déplacement d'eau. Et ce déplacement d'eau initial génère deux très grandes vagues qui ont... en fait des très grandes longueurs d'onde, comme sur l'océan, et qui génèrent des tsunamis.
Donc plusieurs dizaines de mètres. Hein.
Alors, il y en a...
Des vagues de plusieurs dizaines de mètres.
Il y en a un qui avait des volumes initiaux très importants, parce que la taille en fait du glissement est proportionnelle à la hauteur des vagues de tsunami. Et donc, il y en a un qui a eu des vagues qui ont fait, par exemple, à Lausanne, au-dessus de 13 mètres, et puis à Genève, au-dessus de 12 mètres, oui.
Alors, évidemment, c'est très intéressant, parce que vous venez d'une discipline dite de science dure, mais d'une certaine façon, vous aidez les historiens, et les historiens à mieux comprendre des phénomènes historiques. Par exemple, le dernier que vous avez pu recenser, enfin celui qui est le plus documenté, c'est un tsunami du 6e siècle de notre ère, en l'occurrence, qui avait déjà été documenté par des textes hagiographiques, en particulier je crois que c'est Grégoire de Tours qui l'avait mentionné. Mais évidemment, les historiens ne pouvaient pas vérifier que cela avait véritablement existé. Et dans des textes hagiographiques, on sait qu'on a tendance parfois à exagérer certains phénomènes dans le haut Moyen-Âge. Vous avez trouvé la preuve, effectivement, que ce tsunami de 563 a véritablement existé. Vous l'avez trouvé dans les fonds du lac Léman.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est assez passionnant, c'est justement l'apport réciproque, c'est-à-dire à la fois pour nous géologues, le fait d'avoir eu cette information historique et ces textes, ça nous a permis de mettre une date précise et d'avoir des indications sur le scénario qui a déclenché le tsunami, ce qu'en fait autrement on n'aurait jamais eu en fait ces informations-là. Et effectivement, à l'inverse, en ayant trouvé ce dépôt qui à cet âge-là, qui est un dépôt gigantesque au fond du lac, on a pu alors non seulement l'authentifier. Mais les historiens disent qu'eux, ils étaient sûrs du fait que cet événement existait, vu qu'il y avait deux sources, Marius d'Avenches et Grégoire de Tours. Mais surtout, on a pu utiliser la modélisation numérique pour mettre des chiffres dessus, c'est-à-dire des vitesses de déplacement, des hauteurs de vagues, et rendre en fait le scénario beaucoup plus précis, parce qu'évidemment, il n'est pas décrit dans les textes.
Anaïs Kier.
Et puis peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez établi, alors c'est une modélisation aussi, mais une fréquence de ces épisodes de tsunami, je crois que c'est 1,5 tous les 1000 ans, c'est ça? Par
tranche. C'est exactement ça, oui, c'est ça, oui. Donc ce sont des événements très rares, puisque ils sont en fait dans un rythme millénaire, mais évidemment, quand ils arrivent, ils ont certainement un impact tout à fait catastrophique, comme l'ont d'ailleurs les tsunamis dans le monde océanique ou marin. Et donc voilà, c'est très particulier parce que c'est un peu des objets, personnellement, même en tant que géologue qui a l'habitude de traiter de catastrophes naturelles, qu'on ne sait pas très bien en fait manier. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça a lieu très rarement, mais en même temps, quand ça a lieu, ça a un impact très important.
Celui de 563, je crois qu'une montagne s'était effondrée, et donc une partie de Genève a été recouverte par cette vague, justement.
Oui, alors c'était un événement en chaîne avec un écroulement de montagne qui a généré un écroulement du delta sous l'eau, le delta du Rhône dans le Léman, puisqu'il y a un petit delta aussi.
Donc c'est un effondrement sous-marin, en fait. Hein.
Alors c'était un déclenchement aérien, donc une montagne qui est tombée sur la plaine du delta sur Terre. Et là, il y a eu une tellement grande masse de roches que ça a déplacé le rivage et déplacé tous les sédiments qui étaient sous l'eau. Et là, ça a fait un événement en chaîne où ça a déclenché un deuxième glissement, un deuxième collapse, un deuxième écroulement qui, lui, était en fait en volume plus gros que le premier.
Le lac a l'air nettement moins paisible quand vous le décrivez comme ça.
Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on sait par exemple que depuis quelque temps, des historiens de l'environnement, environnementaux, s'intéressent à ces questions-là pour pouvoir, et deviennent parfois même cités dans des tribunaux. C'était le cas en particulier à l'occasion de la tempête Xynthia sur le littoral atlantique, où on a demandé à des historiens et des historiennes de venir pour pouvoir expliquer pourquoi, pendant des siècles, on n'avait pas construit sur certains rivages des bâtiments, et pourquoi on avait, au XXe siècle, construit ces bâtiments qui avaient été ensuite engloutis par la tempête. Ça fait partie aussi de ce travail de géologue que vous avez aujourd'hui, que de devenir d'une certaine façon experte auprès des populations pour expliquer que, certes, c'est une fois et demie tous les 1000 ans, c'est donc très rare, mais ça peut arriver.
Oui, mais c'est aussi très délicat. Parce qu'évidemment, quand on est porteur, entre guillemets, de mauvaises nouvelles, comme ça...
la Cassandre du Léman, vous êtes.
Ouais, alors, il y a de l'incrédulité. Et puis, évidemment, la question qui arrive toujours, c'est quand est le prochain? Et puis, ben ça, c'est juste impossible de le dire. Donc moi, je m'inscris plutôt, en fait, dans une relation similaire, peut-être, à celle des historiens, à savoir que on explique que ça peut se reproduire. Et puis même, en tant que géologue, on peut même dire avec certitude que ça va se reproduire. La question fondamentale, c'est quand? Et ça, évidemment, malheureusement, en fait, la science n'est pas encore assez avancée pour ça.
Anaïs Kien.
Mais quand même, depuis la fin du 19e siècle, on a domestiqué le Rhône. Donc, finalement, ce lac Léman est plus calme que ce qu'il n'était avant, puisque ce fleuve a été dompté d'une certaine façon par l'humain et l'aménagement de son habitat.
Alors, c'est Est-ce juste.
Est-ce que ça joue?
Oui, ça joue. C'est juste que le Rhône est dompté. On dit qu'il est corrigé, hein, tout est dit. Et le lac est lui-même régulé, donc tout est dit aussi. ceci dit, les sédiments qui proviennent des Alpes, de l'érosion des glaciers, qui sont transportés par le Rhône, continuent de se déposer au fond du lac. Il y en a une proportion moindre, puisqu'une partie est extraite comme matériau de construction, une autre est derrière les barrages. Mais néanmoins, il continue d'y avoir des apports sédimentaires, c'est juste la nature. Et donc, quelque part, on continue de recharger des pentes qui pourraient s'écrouler.
Stéphanie Giraclou, vous avez dit tout à l'heure, en ouvrant cette discussion, que vous aviez été surprise vous-même par votre découverte. Ça n'était pas prévu d'une certaine façon. Ça veut donc dire que dans un domaine aussi précis, aussi connu que la géologie que vous pratiquez, il y a la possibilité, en tant que chercheuse ou chercheur, d'être surpris par son objet. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une découverte qui chamboule un peu la vision que l'on peut avoir de l'histoire de ce paysage, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Puis c'est même, dans le cas précis, c'est même assez étonnant parce que j'ai des collègues qui connaissent très bien le Léman qui m'ont dit « Oh, mais pourquoi encore un nouveau projet sur le Léman? Pff, on sait tout. »
Et voilà. Puis c'est une belle série que vous avez découverte puisque ce n'est pas un tsunami, oui, c'est 6.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois aussi, et ça c'est relativement fréquent en science, certains sujets sont balisés d'une certaine façon et...
C'est le changement de regard qui compte.
Et en fait, du coup, on pense tout savoir. Et parfois, ça fait un écran, le fait de penser qu'on sait déjà tout. Donc là, c'était même pour moi-même une bonne leçon, en fait, qu'il faut continuer de regarder autrement, avec un autre angle, à d'autres endroits.
Bah, vous êtes jeune, est-ce que ça arrive deux fois dans la carrière d'un chercheur d'être surpris à ce point-là et de découvrir un nouvel objet
On
vous le souhaite, en l'occurrence.
Si, il y a encore plein de choses à découvrir dans le Léman. Rien n'est fini. On a pour des siècles et des siècles de recherche encore.
Vous avez déjà des programmes de recherche un peu différents que vous êtes en train de monter?
Oui, en fait, maintenant, je travaille sur quelque chose encore plus récent. Je travaille sur le système du delta du Rhône dans le Léman. Et j'essaye de comprendre comment le canyon du Rhône, qui se trouve dans le lac...
Qu'est-ce que c'est le canyon du Rhône? C'est donc une très grande profondeur?
En fait, il y a une rivière dans le lac qui se continue en fait au-delà de l'embouchure du Rhône et qui forme un canyon. Et là, il y a un dynamisme et une évolution de cet environnement qui est assez surprenant aussi. Et c'est, je pense, des choses que, sur lesquelles je vais travailler dans les années qui viennent.
Bah, vous reviendrez peut-être dans 5 ou 6 ans à la Fabrique de l'Histoire pour nous en parler. Merci, en l'occurrence, Stéphanie Gérard-Claude, d'être venue nous parler dans le cadre de ce festival Histoire et Cité qui est consacré aux histoires d'eau, de ce lac Léman, de ce tsunami de 563. Vous interviendrez cet après-midi, c'est ça? À l'Uni du Four, salle U600, pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Genève, entre 14h et 15h15, pour préciser tout cela.
Oui, avec Justin Favreau, historien, et Patricia Michelet-Restin.
Et c'est très bien. Oui. Merci à Marie-Laure Ciboulet qui connaît mon amour pour Kerenan d'avoir choisi ce titre tiré de son dernier album Nager la nuit. Bonjour donc à vous Marc-Antoine Kayser.
Bonjour.
Vous êtes notre deuxième invité dans le cadre de cette émission spéciale que nous réalisons depuis les studios de la RTS à Genève à l'occasion du festival Histoire et Cité autour de l'eau. Alors vous dirigez le l'Athénium. Expliquez-nous ce qu'est le l'Athénium. C'est une institution de recherche et une institution muséale en même temps au bord d'un autre lac, le lac de Genève, le lac de Neuchâtel.
Voilà, oui. Bah, en fait, c'est le plus grand musée archéologique de Suisse. Il est implanté au bord du lac, dans un cadre assez charmant et assez idyllique, qui donne une idée, on va dire, beaucoup plus tranquille de nos environnements lacustres.
Attendez, il y aura peut-être une Stéphanie Gérard-Claude qui viendra pour vous dire qu'il y a eu des tsunamis sur le lac de Neuchâtel. C'est possible.
Non, de fait, il y en a eu. Il y en aura peut-être bientôt de nouveau. Mais pour le moment, on est tranquille chez nous. Et de temps en temps, l'été, on peut même sortir du musée, aller se baigner dans le lac en espérant qu'il n'y ait pas un tsunami.
Alors, donc, vous êtes aussi dans la programmation de ce festival Histoire et Cité avec une conférence qui se tiendra demain entre 14 et 15 heures autour de la puissance évocatrice des cités lacustres. Vous êtes déjà venu dans la Fabrique de l'Histoire pour nous parler d'archéologie, de préhistoire, mais là en l'occurrence c'est au titre d'historien de l'archéologie, pourrait-on dire, que vous allez intervenir, puisque vous allez nous raconter ce que peu de gens savent, comment le 19e siècle a inventé une civilisation lacustre qui aurait été une civilisation paisible de commerçants et de pêcheurs donc au bord des lacs, qui aurait permis à la Suisse de se reconnaître dans une civilisation très ancienne, celle des cités lacustres, que vous remettez en cause en tant que historien et archéologue, du moins dans la version 19e siècle.
Mais voilà, bon, disons c'est une longue histoire qui, on va dire, déclenché par des événements historiques assez violents en Suisse, c'est-à-dire la création de l'État fédéral en 1848, qui est vraiment la création d'un nouveau pays.
On essaye toujours. À la suite d'une guerre civile.
Voilà, il y a eu une guerre civile en 47, en 48 on crée ce nouveau pays qui prétend avoir des origines médiévales et qui va beaucoup insister sur ses origines médiévales. Mais en fait, il y a un vrai problème idéologique. Et en fait, on est au milieu du 19e siècle quand on commence à avoir les, on va dire, les prémices de l'archéologie préhistorique et les recherches de certains antiquaires, comme ces gens s'appellent, enfin s'appellent eux-mêmes, en fait mettent au jour des découvertes tout à fait étranges sur les rives des lacs. Alors d'abord sur les rives du lac de Zurich, puis très vite sur les rives de tous les lacs. C'est des vestiges, on le sait aujourd'hui, du néolithique et de l'âge du bronze, donc qui datent, on va dire, entre la fin du 5e millénaire et le début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Des choses très étranges.
Et puis ce qui change peut-être un peu, c'est que ce ne sont pas des nécropoles. C'est de l'archéologie du vivant, c'est-à-dire qu'on a la preuve de vie. D'ailleurs, dans un de vos textes, vous racontez à quel point c'est émouvant de découvrir des pelures de pommes séchées, des choses du très quotidien, des noisettes qui n'avaient pas encore été
exactement,
consommées.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et c'est aussi peut-être cet enthousiasme de découvrir des traces de vie et non plus des traces de mort ou de culte qui changeait aussi peut-être le regard sur sa propre archéologie à un moment où la société helvète est encore très très clivée et peut-être a besoin aussi de quelques cadeaux.
À mon sens, ça va bouleverser, on va dire, l'archéologie elle-même, l'archéologie préhistorique, qui jusqu'alors, comme vous le dites, était focalisée sur des fouilles de tombes ou des choses comme des champs de bataille. Et en fait, là, la fouille de ces établissements littoraux, donc qui sont sur les rives des lacs en Suisse, permettent d'avoir un accès à la vie dans ces temps ignorés de la mémoire humaine. Donc en fait, on a, grâce aussi à des conditions de conservation absolument extraordinaires...
Mais comment ça se conserve on a, au fond des lacs?
En fait, c'est dans des sédiments humides, donc si vous voulez, c'est déjà bien préservé dans du... C'est un petit peu comme bien emballé dans, dans du sédiment humide, donc aussi à l'abri des pressions. Et puis, alors, c'est l'humidité constante et... à l'abri de l'air. Et ça permet la conservation des éléments organiques. Donc oui, des pommes, des noisettes, des restes de nourriture, des éléments, des outils en bois, des choses comme ça. Et donc, ça va donner aux archéologues une vision de ces temps préhistoriques qui est extrêmement vivante et qui, en même temps, va les conduire à définir une civilisation qui se caractérise par ce, on va dire, tout cet élément très, très domestique, très calme, peut-être très tranquille. Et donc, on a l'impression...
C'est pas une nation de guerriers, quoi.
Voilà. Si vous fouillez une tombe de Gaulois, il va être enterré avec sa parure, c'est-à-dire toutes ces attestations de vanité, typiquement françaises, si je me permettre.
Ses
armes.
Alors que la modestie suisse et helvète.
Quand on fouille un habitat, voilà. On va trouver des ustensiles, des cuisines, des choses comme ça. On se dit, ça, c'était des gens peinards et tranquilles. Et surtout, c'était des travailleurs parce qu'on trouve des quantités d'outils. Et donc, le Suisse, dès la préhistoire, était un travailleur.
Alors, évidemment, il faut quelqu'un pour théoriser tout ça. Il s'appelle Ferdinand Keller en particulier. Il va prendre tout ce que l'on trouve, tous ces travaux d'antiquaires, toutes ces fouilles du milieu du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, et puis il va en faire un système d'une certaine façon. Et c'est ce système que, en tant qu'historien et archéologue, vous avez contribué avec d'autres à démonter dans la dernière partie du 20e siècle, en l'occurrence Marc-Antoine Kayser.
Voilà, parce qu'il faut voir que, disons, l'archéologie a beaucoup évolué depuis. Il n'en demeure pas moins que cette représentation idéalisée du passé de la Suisse a continué longtemps, et je crois aujourd'hui encore, continue à prévaloir. C'est-à-dire qu'on a des représentations imaginaires qui ont donné lieu à toute une imagerie d'Épinal, mais aussi à des tableaux importants en peinture historique dans les beaux-arts. Ça se retrouve dans les livres d'école.
Oui, en fait, vous racontez même qu'on invente des cortèges historiques où
on a des gens
les Suisses se déguisent en lacustres, donc on arrive à un degré de réinvention d'une civilisation. D'ailleurs, vous vous opposez un petit peu complètement à cette idée de civilisation, mais on réinvente et on revit comme ses ancêtres lacustres, qui finalement n'ont pas existé, mais qui étaient quand même bien pratiques à l'époque, puisque Keller dit que voilà, ces habitants lacustres sont des travailleurs, sont des individus, vivent de manière autarcique, mais très autonome aussi sur leur terre, mais ont dû à un moment donné aussi s'unir pour créer cette grande plateforme au-dessus de l'eau, parce que c'est un peuple qui vit au-dessus de l'eau, on voit à quel point il est élu, ce peuple, pour créer cette grande plateforme sur laquelle installer cette civilisation, qui est d'ailleurs une des premières sociétés sédentaires dont on a connaissance à l'époque. C'est dire si la découverte est d'importance.
D'une certaine manière, en fait, on a un peu ça, on croit à l'époque que, comme les premiers villages connus dans l'histoire de l'humanité sont découverts en Suisse et qu'on en découvre des quantités, en fait, on part un petit peu de l'idée que la sédentarité, qui équivalait à l'époque, dans l'esprit des scientifiques du 19e, à la civilisation, c'est-à-dire que la civilisation était réputée débuter avec la sédentarité, ben on en déduit par voie de conséquence, que la civilisation est inventée en Suisse. Alors, ça peut paraître extraordinairement prétentieux, mais c'est quelque chose qui est partagé. Ce sont des idées qui sont partagées par des quantités de préhistoriens également à l'étranger, en France ou ailleurs. Et c'est lié, on va dire, à des vertus qu'on attribue aux Suisses. Donc, c'est ces vertus on va dire laborieuses, hein, c'est des travailleurs. Et il y a un autre élément, vous avez mentionné la plateforme. Donc, en fait, alors justement, on a entendu parler de géologie. À l'époque, on n'est pas vraiment conscient des changements de niveau du lac. Donc, comme on trouve des habitats sous l'eau, on part de l'idée que c'est des gens qui ont construit sur des plateformes au-dessus de l'eau. Et évidemment, pourquoi? C'est le Sonderfall suisse, c'est le cas particulier suisse. On se met en retrait du monde pour se protéger des dangers extérieurs. Donc il y a quelque chose là presque sur le plan psychanalytique qui exprime...
La forêt dans le dos et le lac devant.
Et le lac devant avec les bêtes sauvages, c'est l'Europe.
Hein. Tout autour.
Alors, la pique contre la France, la pique contre l'Europe, ça va, on sait qu'on est en Suisse.
Oui, ça va servir quand même cette idée de construire un îlot de paix. Loin des guerres, donc de se construire en tant que civilisation, que société pacifiste, et à l'écart de toutes les guerres, c'est d'où le pacifisme. En fait, le pacifisme, c'est un retrait du monde aussi.
Voilà, et c'est... Alors, il y a évidemment aussi quelque chose de très fort, c'est que cette idée de devoir construire une plateforme, on construit une plateforme sur le lac, donc une entreprise extraordinairement compliquée, avec des haches préhistoriques, et par-dessus, on va construire les maisons. Donc, ça donne aussi l'idée d'une société préhistorique solidaire. C'est-à-dire qu'il y a ce travail collectif nécessaire à la construction de la plateforme. Et quand on fouille ces villages, on trouve, on va dire, extrêmement peu, en vous disant proportionnellement peu, d'objets de prestige. Et donc, on en déduit, de manière relativement logique, le caractère égalitaire de cette société qui répond parfaitement à la démocratie suisse de 1848. Oui. C'est-à-dire que la Suisse, à l'époque... dans la deuxième moitié du 19e siècle, est la seule démocratie sur le continent européen. Donc c'est un modèle.
Véritablement,
c'est un modèle qui va puiser ses références dans un très lointain passé.
Et alors, évidemment, tous ces objets vont s'exporter dans le monde entier, vont participer donc à un grand marché archéologique qui va nourrir les marchés des grands collectionneurs du monde entier, au bout du compte. Vous, quand vous reprenez le dossier, d'une certaine façon, dans la deuxième moitié du 20e siècle, Marc-Antoine Kayser, et à la toute fin de ce 20e siècle, qu'est-ce que vous retrouvez de... entre guillemets, vérifiable, vérifié, et qu'est-ce que vous retrouvez de farfelu dans ces théories nées au milieu du 19e? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut donc relire à partir des dernières découvertes archéologiques, justement, qui soient encore valables ou valides de ce qui a été découvert par ces antiquaires du 19e, et qu'est-ce qui, d'une certaine façon, n'est vraiment que le reflet de ce que vous nous avez décrit, c'est-à-dire une sorte d'imaginaire qui s'est appliqué à ce passé très lointain?
Alors, je vais essayer de répondre de manière générique à votre question, parce que moi, ce qui me frappe, c'est que quand on va faire de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire des sciences sur cette matière, on voit bien la distinction qu'il y a entre une archéologie qui, à l'époque, était déjà méthodologiquement pionnière, c'est-à-dire que, véritablement, du point de vue des méthodes et des techniques de recherche, ces gens faisaient un travail extraordinaire. Ils ont innové de manière remarquable, et en même temps, les interprétations qu'ils proposent nous paraissent aujourd'hui ahurissantes et ont été évidemment instrumentalisées politiquement et idéologiquement. Alors pour moi, c'est un reflet, c'est un miroir qu'il est important de tendre à notre présent, parce que mon propos avec mes collègues, là on va dire plutôt le tout début du 21e siècle, a consisté à essayer de résoudre un problème, c'est-à-dire que dès les années 70, voire même avant, toute la communauté archéologique s'était accordée sur le fait que cette théorie lacustre était fausse, était fautive. Et on a suivi...
Et qu'il fallait s'en débarrasser.
On a suivi une génération de didacticiens qui expliquaient au bas peuple que tout ça c'était faux. Et le bas peuple voulait pas comprendre.
Oui. Est-ce que peut-être qu'il faut le très grand succès de ce mythe archéologique, c'est-à-dire que de très très nombreux Suisses vont s'engouffrer, vous parlez même de pêcheurs, d'artisans qui abandonnent leur métier pour devenir archéologues. De ce passé lacustre.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui a totalement imprégné notre imaginaire. si vous voulez, l'exposition nationale en Suisse en 2001 est imprégnée de mythes lacustres. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de construire des îles sur des plateformes pour exprimer des valeurs qui sont les mêmes que celles qui sont thématisées par les archéologues du 19e siècle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort.
Il y a pas de concomitance entre le travail des politiques, ceux qui font justement l'exposition 2001, et les chercheurs qui, au même moment, remettent en cause cette vision-là.
Alors, c'est bien ça le problème. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai voulu, ce pourquoi j'ai voulu me battre, c'est-à-dire que moi, au départ, dans le fond, je suis archéologue. En fait, mon idée a consisté à découpler le mythe historique des lacustres et l'archéologie préhistorique. C'est-à-dire qu'il fallait que mes collègues archéologues, d'abord, respectent cette réalité comme une réalité mythique. Donc, comme le dit Lévi-Strauss, un mythe, c'est pas de la connaissance fausse, c'est un récit. Alors, si on est dans la narration, c'est un récit qui exprime un sens qui nous plaît, qui convainc. C'est-à-dire que il exprime des valeurs qui convainquent.
Et donc, qui agit au présent, qui n'agit pas seulement
sur le présent. Qui agit au présent et qui n'arrête pas d'évoluer. Donc le mythe, il évolue, le mythe lacustre existe encore. Il faut simplement que les archéologues comprennent qu'il faut pas lutter frontalement là contre. Il faut simplement reconnaître que c'est une belle histoire, mais qu'à côté, la science archéologique a des choses à dire.
Vous rejoignez d'une certaine façon tous les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales qui tentent aujourd'hui de dire « mais il y a des fake news partout, l'Internet est plein de fausses nouvelles » par rapport aux recherches qui sont en cours et qui n'y arrivent pas d'une certaine façon. La question, c'est que faire face à ces fausses nouvelles, à leur propagation, au caractère plaisant aussi que peuvent avoir justement ces théories du complot, ou là, en l'occurrence, un mythe aussi fort que les cités lacustres. Et vous dites, il faut pas se battre sur ce même terrain d'une certaine façon, Marc-Antoine Kayser, il faut faire avancer la connaissance, mais de toute façon, le mythe parfois est plus fort que le travail de chercheurs que nous faisons.
Oui, je crois que, si vous voulez, moi j'ai vu une génération entière de chercheurs qui se sont opposés frontalement à cette théorie lacustre, sans aucun succès, et en fait ça les pousse de plus en plus dans des positions scientistes.
Et dans le désespoir peut-être aussi.
Ça, bon, c'est leur
le
problème.
Le désespoir mais... peut-être entendu.
Disons, ça les pousse dans des positions scientistes qui vont alimenter justement, au sein de la population, cette idée qu'il existerait une science officielle. Et donc, ça va renforcer, si vous voulez, ces représentations imaginaires. Donc, il faut...
Que vous êtes du côté du manche, que vous êtes du côté du pouvoir, et que d'une certaine façon, vous voulez imposer au peuple des visions que lui ne veut pas accepter. D'une certaine
donc, moi, l'idée, disons, typiquement, la conférence que je vais faire, c'est de dire, ce mythe lacustre est quelque chose de fantastique, c'est d'une beauté, c'est une splendide histoire.
Et qui rebondit d'ailleurs
mais
sur
après,
lui-même.
Mais après, nous autres archéologues, nous avons aussi des choses très intéressantes à dire sur l'âge du bronze et le néolithique.
Parce que ce que vous dites aussi, qui est très, très intéressant, Marc-Antoine Kayser, c'est de voir comment ce mythe est plastique. C'est-à-dire que, une fois la guerre froide terminée, la Suisse a nettement moins besoin de se construire un fortin idéologique de cette nature-là et va se rapprocher progressivement de l'Union européenne, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a une réactivation très très puissante de ce mythe grâce à cette conscience peut-être de nécessité de se rapprocher de la nature, d'être à son écoute et de la respecter qui peut être contenue. On peut l'interpréter de cette façon-là dans ce mythe de la plateforme lacustre. Et puis cette autarcie, cette modestie face à son milieu, qui peut être aussi très très actif et efficace dans une manière de repenser la manière d'habiter le monde d'aujourd'hui. Donc on voit bien que ce mythe a encore de beaux jours devant lui et qu'il a une certaine efficacité finalement. Il ne faut pas le jeter.
Tout à fait. Et on peut pas le jeter. Disons, il faut simplement se rendre compte que c'est une belle histoire, mais que l'histoire, elle, c'est ou l'archéologie, c'est une autre démarche. Qui vise à construire de la connaissance et pas à essayer de comprendre le monde. Un mythe permet de donner du sens à votre présent. L'histoire, elle est là pour autre chose.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cet exemple des cités lacustres, on peut l'appliquer dans tout un tas d'autres endroits où la fabrique de l'histoire, pour reprendre le titre de notre émission, s'est exercée. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette émission est née de ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est cette volonté des chercheurs de faire face, justement, aux fabrications, aux constructions mythologiques, etc., etc. Et on voit bien qu'en 20 ans, la position des chercheurs comme vous a pu évoluer, d'abord frontale, pour pouvoir tuer le roman national, par exemple, dans beaucoup de pays, et maintenant de dire, faut que ça continue à exister, ça continuera à exister sans nous, et nous avons notre travail à faire, Marc-Antoine Kayser.
Oui, disons, moi je pourrais conclure par une remarque, c'est que véritablement du point de vue de la conservation des sites, donc je travaille dans un musée, mon rôle est dans la médiation, mais aussi la sauvegarde du patrimoine. On avait un gros problème en Suisse, c'est que la communauté scientifique était très gênée par rapport à la thématique lacustre. C'est d'ailleurs un mot, le mot lacustre, qu'on n'osait pas utiliser. C'est-à-dire que les scientifiques parlaient de palafite, qui était un néologisme qui a été inventé justement pour contourner le problème idéologique. Et du coup, on n'a pas réussi à faire le travail d'investissement politique nécessaire à la préservation de ces sites qui sont extrêmement fragiles. C'est précisément, on va dire, dès 2004, au moment, on va dire, de la reconnaissance de ce mythe lacustre et de la distinction qu'il y a par rapport aux intérêts de la recherche archéologique, que les archéologues ont pu faire le travail de communication et de politique nécessaire à ce qui a abouti par l'inscription de ces sites lacustres au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui garantit désormais leur préservation et leur sauvegarde.
Anaïs Kien.
Ce succès de ce scénario lacustre a vu de très très nombreuses reconstitutions, d'ailleurs plus ou moins inspirées, qui prenaient beaucoup de liberté avec un réel possible, avec les preuves qu'on avait au milieu du 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y avait un enjeu de la reconstitution et peut-être d'imaginer un musée justement de ces cités lacustres comme le Laténium, Marc-Antoine Kaiser. Comment s'en sortir pour concevoir un musée avec de tels ascendants d'une certaine façon qui avaient donné lieu à des reconstitutions tout à fait folkloristes et même délirants de ce passé archéologique.
Je sais pas trop comment répondre. Disons que de toute manière on est un petit peu sur le fil du rasoir, on joue un petit peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que c'est le problème de la poule et de l'œuf, hein. C'est toujours le public veut ça. Oui, le public veut ça, mais je crois que on peut résoudre le problème avec une sorte de regard décomplexé, un peu humoristique, un peu décontracté. On va dire que nos visiteurs apprécient. C'est-à-dire que les gens apprécient de voir que on peut présenter des recherches novatrices, des recherches qui permettent aux gens de découvrir des choses qu'ils ignoraient sur ce passé lointain, et en même temps, on va dire, continuer à cultiver avec une certaine complicité des éléments de séduction qui, en définitive, nous plaisent tous. J'ai pendant très longtemps eu un grand tableau lacustre dans mon bureau, je dois l'avouer. Moi aussi, ça me plaît. Je ne serais pas travaillé là-dessus pour rien.
Donc, le terme lacustre reste totalement associé à de l'imaginaire.
Ouais, vraiment. Vraiment, c'est-à-dire qu'autrement, on va parler des habitats on va dire des habitats cortaillots ou du bronze ancien dans le lac de machin.
Et ça, évidemment,
c'est tout de suite très différent.
Et moins désirable.
Merci beaucoup. Vous interviendrez donc demain, Marc-Antoine Kaiser, pour développer ce que vous nous avez dit à ce micro, la puissance évocatrice des cités lacustres. Et vous vous trouverez aussi dans un débat que vous allez mener, Anaïs Kien.
Ah oui, demain, alors ça n'est pas un débat. C'est ce que nous avons appelé une flash conférence. Donc c'est une conférence collective où tous les historiens que nous avons conviés, avec Manon Bril, la grande youtubeuse de C'est une autre histoire, que vous connaissez, Emmanuel, et que vous connaissez peut-être aussi, chers invités. Et donc, nous serons une petite dizaine à décrire chacun notre tour un bestiaire des eaux et des océans. Donc chacun viendra
les sirènes,
avec sa
les...
créature, son personnage étrange, mais tous ayant à voir avec l'eau et avec la vie sur l'eau, l'habitat dans l'eau et les fantasmes liés à l'eau.
Puisque c'est le thème
à 16h demain, à la pointe.
Voilà. C'est le thème d'Histoire et Cité, c'est Histoire d'eau à Genève, et c'est pour ça que nous nous sommes déplacés jusque dans ces studios de la RTS à Genève.
Déjà ?
Alors, pour la 20e fois, on attend une apparition de la Dame du Lac.
Ah oui, c'est ça.
La Dame du Lac, par rapport à vous, c'est...
Comment par rapport à moi ?
Votre cousine ?
Mais absolument pas.
Il paraît qu'elle accepte de voir que vous.
Alors pour la 30e fois, ça aussi, c'est pas qu'elle accepte de voir que moi, c'est qu'il y a que moi qui peut la voir.
Ah ouais, du coup...
Si elle accepte de voir que vous...
Voilà une petite sélection de génériques de séries télévisées sur fond d'histoire. On a reconnu Kaamelott, Viking et quoi d'autre parce que j'ai pas reconnu tous les
et génériques. Rome.
Et Rome, voilà. Pour nous introduire à la dernière séquence de cette émission de ce jour, avec vous, Talia Brero, bonjour.
Bonjour.
Vous avez coordonné avec Sébastien Faré et d'autres historiennes et historiens trois saisons de conférences et de cours publics, comme on les appelle ici, à l'Université de Genève, sous le titre The Historian. C'est construit comme une série avec une saison 1, saison 2, saison 3, des séries télé décryptées par les historiens en prenant au sérieux justement le discours de ces séries télévisées. On parlait d'imaginaire du 19e siècle, il y a un imaginaire du 21e siècle qui est parfois porté par ces séries historiques et vous faites donc un travail collectif autour de l'importance de ces séries télévisées sur fond d'histoire. On sait que le festival Sériemania à Lille se termine ce week-end, qu'il y a de très nombreuses séries nouvelles qui vont apparaître, une sur une blanche élevée par les Noirs dans les années 60 aux États-Unis qui s'appelle I Am the Night, ou encore une autre sur Bagdad centrale, c'est-à-dire les guerres en Irak, ou Les Misérables qui vont être remises en selle par la BBC cette saison-ci. Et puis, la semaine prochaine, à Cannes, il y aura le festival Cannes Série qui lui aussi proposera, par exemple, en exclusivité, la série Bauhaus qui fera peut-être une suite à cette série dont on a parlé dans la Fabrique de l'Histoire qui s'appelait Babylone-Berlin, c'est-à-dire les années 20, dans l'Allemagne d'après Première Guerre mondiale. Pourquoi les historiennes et les historiens ont-ils à s'intéresser à ces questions-là, Talia Brero?
Mais c'est un constat qu'on a dressé avec quelques collègues de l'Université de Genève. On est tous historiens, en fait. Sébastien Faré, historien de la période contemporaine. Pour ma part, je suis médiéviste. Et avec deux autres acolytes, Yann Blanc, historien de l'art de la période moderne, et Delphine Gardet, spécialiste en études genre, on a fait ce constat que les séries télévisées sont un phénomène vraiment d'importance de notre société et qu'une part importante de ces séries comporte une dimension historique. Et parmi ces séries, certaines sont celles qui rencontrent le plus de succès. Et on s'est dit qu'en tant qu'historien, on pouvait pas, c'était un peu dommage de passer à côté de ce phénomène qui passionne nos étudiants et qui, à vrai dire, nous passionne aussi.
Anaïs, tiens.
Mais on connaît bien cette puissance de l'histoire à être une bonne réserve d'histoire au pluriel, parce que effectivement, on a largement de quoi faire. Mais est-ce qu'on n'assiste pas aussi en ce moment, Talia Brero, à une invasion? C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à trouver de séries qui ne soient pas de séries historiques d'une certaine façon. Le paysage audiovisuel semble saturé par l'histoire.
Mais c'est assez réjouissant, je trouve, en l'occurrence. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est est-ce que ça porte un impact sur notre société, sur l'intérêt que le public peut porter à l'histoire, sur l'intérêt des étudiants, par exemple, est-ce que ça peut créer des vocations? Un exemple qui avait été cité à l'Université de Lausanne, c'est qu'il y a une faculté de criminologie qui avait vu son nombre d'inscriptions augmenter de manière très significative quand la série Les Experts avait été diffusée dans les années 2000. Je serais assez curieuse de regarder est-ce que Game of Thrones, par exemple, est-ce qu'une série comme cela a une incidence sur les inscriptions?
Alors ça, c'est vraiment un cas particulier parce qu'il y a des caractéristiques historiques, mais on est vraiment dans l'héroïque fantasy. C'est-à-dire que c'est un millefeuille temporel qu'on aurait passé à la moulinette et qui rendrait ce bel exercice, d'ailleurs, de fiction qu'est Game of Thrones. On empile dans ces intrigues tout un tas de références historiques que l'on remélange, que l'on réagence pour créer cet effet de réel. Après, on voit bien aussi la fable de Game of Thrones qui est assez traditionnelle, c'est-à-dire toute une série de puissants royaumes qui s'entre-déchirent et qui ne voient pas venir une menace plus lointaine contre laquelle ils devront peut-être s'unir.
Mais c'est vrai que Game of Thrones, c'est une sorte de locomotive qui a eu tellement de succès que j'ai l'impression que un certain nombre d'autres séries ont été tournées dans son sillage pour répondre à un nouvel intérêt du public pour des époques passées, qu'elles soient fantasmées ou pas. On peut penser par exemple à la série Vikings qui a eu qui a rencontré un grand succès, qui a été étudiée par Nicolas Mélan dans un des deux volumes qui sont parus pour l'instant.
Aux éditions Georg, il faut le préciser.
À Genève, oui.
Et donc, cette série Game of Thrones qui va voir apparaître sa huitième saison dans une quinzaine de jours, parce que je crois que c'est le 15 dans le monde entier qu'on pourra voir les premiers épisodes de cette huitième saison. C'est intéressant de ce que disait Anaïs, c'est-à-dire que c'est une concaténation de visions médiévalistes, pourrait-on dire, mélangées avec de la fantaisie. Ça n'est pas directement de l'histoire, mais ça peut intéresser l'historienne que vous êtes, en l'occurrence, et spécialiste en particulier du médiéval.
Alors, c'est vrai que dans ce projet des Historians, on n'a pas publié d'article sur Game of Thrones parce que, évidemment, ça relève plus de la fantaisie que de l'histoire. On s'est concentré sur des séries qui décrivaient un passé réel, disons.
À l'exception de The Walking Dead.
Oui.
Yuri Volokhin, donc antiquiste, écrit sur The Walking Dead. Je rebondis un peu sur ma première question, c'est-à-dire que finalement, on met de l'histoire partout. Même quand cela n'est pas évident, puisque là, Yuri Volokhin propose de lire cette série avec un regard d'historien, donc avec une analyse dans l'histoire de cette représentation des morts qui marchent.
Oui.
Talia Prero.
Donc, effectivement, il y a énormément de séries historiques en ce moment qui semblent répondre à une demande du public. Et on peut s'interroger sur l'évasion qu'elle procure aux téléspectateurs.
L'exotisme de l'histoire qui agit toujours.
Un exotisme temporel, en fait. On peut, plutôt que de fuir dans une destination lointaine, on s'enferme dans le passé. Et c'est effectivement très immersif, parce qu'on passe des dizaines d'heures dans des sociétés qui sont reconstituées avec minutie, exactitude. Ça, c'est une autre question. Et c'est une des questions qui est débattue dans nos ouvrages.
Oui, parce que aborder cette question en disant que, un peu comme Marc-Antoine Kayser à propos des lacustres au XIXe siècle, ce passé, c'est un passé refuge. C'est, vous expliquez que c'est un ailleurs, non pas géographique, mais un ailleurs temporel, et que cet ailleurs temporel dit quelque chose d'une société qui a besoin, à un moment donné, de se réfugier dans des valeurs ou des idées qui lui paraissent circonscrites, qui lui paraissent bien établies. Alors, ça peut être au Vatican, au moment des Borgia, ça peut être sous les Tudors en Angleterre, mais enfin, en tout cas, on a à ce moment-là une possibilité de dire ça bouge pas, on comprend, il y a la vengeance, il y a le désir, il y a la passion,
tout le ça pouvoir, c'est
il y a le pouvoir souvent
et le sexe aussi
et beaucoup de sang et tout ça on comprend, ça fait partie des disons des données de base que l'on a d'une anthropologie extrêmement simpliste.
Oui, c'est vrai que je pense que la dimension d'évasion est quand même très très importante et c'est vrai que c'est intéressant de regarder aussi comment l'érotisme et la violence sont traités dans ces séries, parce que les réalisateurs semblent un peu tous permettre, et l'exotisme alors, fait que
c'est possible.
Ils s'en donnent généralement.
Alors que si on le faisait sur la société contemporaine,
voilà,
on le ferait pas.
Voilà, c'est aussi un peu une machine à fantasmes. Et puis, mais cet intérêt pour le passé, moi j'ai aussi l'impression que ça témoigne d'une curiosité pour le public. En discutant avec des gens, très souvent ce qui est ressorti, c'est les personnes qui regardent une série vont avoir la curiosité après l'épisode de regarder, faire une recherche sur Google pour voir qu'est-ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Et en fait, c'est le début d'une démarche historienne, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, ce que vous notez avec ceux et celles qui travaillent avec vous, c'est que, en fait, il y a, pourrait-on dire, concurrence de récits. C'est-à-dire que si on est anglais, on va regarder les Tudors. Si on est espagnol, on va regarder Carlos Rey Emperador. Et on pourra multiplier les cas. On sait qu'il y a peut-être en préparation une série sur les Valois en France. Donc on a des périodes de prédilection. Par exemple, dans la baie, c'est le summum de la puissance internationale de la Grande-Bretagne et de l'Empire, par exemple.
Oui, au moment en fait où on a commencé le projet en 2016, on avait essayé de faire un tour d'horizon avec mon collègue Sébastien Faré de toutes les séries historiques qui avaient plus ou moins sur le marché, c'est infini. Et on avait été frappé d'abord de constater qu'il y avait deux périodes qui étaient particulièrement à l'honneur, ce qui a un petit peu changé maintenant avec la prolifération de plus en plus importante des séries, mais c'était le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, donc le XXe siècle.
Puis le Moyen-Âge, plutôt la fin du Moyen-Âge.
Voilà, plutôt la fin du Moyen-Âge. C'était vraiment les deux périodes qui étaient particulièrement à l'honneur, parce qu'on s'était dit, idéalement, notre cours public, on aimerait qu'il y ait toutes les époques qui soient représentées. Et en fait, il y avait très peu de séries, à part l'énorme Rome, sur l'Antiquité, et vraiment très très peu sur l'Ancien Régime, et c'est quelque chose qui est en train de changer. Un autre constat, c'était l'importance des vies de puissants représentées dans les premières séries
historiques. Les biopics en série.
Voilà. le roi Henri VIII dans les Tudors, Jules César dans
Reprise dans la Guerre des Roses, parce qu'il y a quand même un... Pour ça, je crois que l'audiovisuel britannique est très intéressant, c'est qu'ils redoublent leur écriture de l'histoire en fiction et en série, puisqu'on a très souvent, entre les chaînes publiques et les chaînes privées britanniques, plusieurs interprétations du même moment. Vous parliez, Emmanuel, de la série Vikings, mais on a aussi eu The Last Kingdom, qui se passe sensiblement au même moment. Donc on a deux interprétations d'une même histoire en fiction que l'on peut comparer. On a eu les Tudors, et on a eu aussi eu La Guerre des Roses, et encore deux ou trois autres séries, je crois, qui mettaient en scène des femmes, cette fois-ci, aux prises avec ces moments historiques très tendus. Donc on va finir par avoir un tel échantillon, un tel effet de série, pour le coup, qu'on pourra faire des histoires comparées des représentations, et ce sera sans fin. C'est-à-dire que cette production exponentielle de séries va donner un travail incroyable à votre séminaire et un programme sans fin à vos cours publics, Talia Brero.
Mais surtout, en fait, un constat qu'on avait fait, c'était que les séries sont effectivement très à la mode et que les universitaires s'en sont emparés depuis plusieurs années déjà. Mais c'est surtout des sociologues ou des historiens de la littérature, du cinéma, qui s'y sont intéressés et que les historiens sont restés étrangement silencieux sur la question jusqu'à maintenant. Alors maintenant, ça commence à changer. Il y a eu l'ouvrage de Ioannis de Roade sur les séries historiques américaines, « Dominer le monde ». Mais notre idée, c'était vraiment de donner la parole à des historiens qui puissent s'exprimer sur des séries
récentes,
très portant sur la période dont ils sont spécialistes.
Et puis vous dites très bien d'ailleurs que on pourra aussi analyser les représentations physiques de tous ces héros, ces personnages, leur coiffure qui change très régulièrement et que la coiffure
les coupes de cheveux qui trahissent la date de production.
La coiffure en mulet de Richard, de Kevin Costner dans Robin des Bois ne pourrait pas se refaire aujourd'hui si on avait à refaire cela, etc. Merci beaucoup Talia Brero. Vous avez jamais eu l'idée d'en faire une? Vous travaillez sur la fin du 19e, la fin du Moyen-Âge.
Moi, je travaille sur la fin du Moyen-Âge, mais ma série préférée, c'est Deadwood. Donc, je sais pas si je suis très compétente pour parler de western, mais un jour peut-être.
Alors, on pourra donc lire The Historian, saison 1 et saison 2 aux éditions Georg, les séries télévisées décryptées par les historiens, signées par vous, par Sébastien Faret pour l'édition, et donc par tout un tas d'autres historiennes et historiens ici à l'Université de Genève ou à l'Université de Lausanne. Merci à tous les trois. Bien entendu, dans le cadre d'Histoire et Cité, si vous vous trouvez tout près de Genève, n'hésitez pas à venir aujourd'hui et demain. De nombreuses conférences, par exemple tout à l'heure, Thomas Romer sur le mythe du déluge ou encore bien d'autres.
On avait dit que vous me le laissiez sur
une autre.
Sachez que nous vous recommandons doublement la conférence de Thomas Romer sur le mythe du déluge. Et voyage en européenne du 4e au 1er millénaire avant notre ère. Plus difficile peut-être.
Oui, mais c'est avec Anne Loerf que vous avez eu dans votre documentaire d'hier.
Voilà, et qui sera avec nous aussi samedi après-midi. Et puis surtout, précipitez-vous au cinéma Le Grutli, puisque la programmation cinématographique qui accompagne le festival est toujours magnifique. Et je crois que d'ailleurs, il y a aussi une conférence cet après-midi sur l'archéologie subaquatique sénégalaise.
Exactement. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et par Céline Leclerc. Remercions la technique Quentin Kelvenek de la radio-télévision Suisse et toutes les personnels de la radio qui nous ont accueillis ce matin. Bruno Gagnère était à la technique à Paris. 33 ans de complicité avec lui, de curiosité sur le passé, de discussion, de fou rire. On le remercie parce que c'est la dernière émission de la Fabrique de l'Histoire à laquelle il aura participé. Il part bientôt à la retraite. Merci Bruno Deloin en l'occurrence. Et merci à Marie-Laure Ciboulet qui réalise cette émission. Ici, la semaine prochaine, nous vous parlerons d'Algérie. Et comme d'habitude, évidemment, l'histoire continue sur France Culture avec Jean-Noël Jeannet demain à 10h et Concordance des temps.